Auditeurs de Sans Langue de Bois, merci de nous rejoindre pour partager le dernier Parole de Militants. Oui, la pause estivale s'impose. Et avant de laisser filer nos militants, j'ai décidé de les retenir encore un peu pour satisfaire le plus largement votre esprit critique. Aujourd'hui, ils sont six, puisque les trois organisations politiques invitées ont décidé de mettre en avant la mixité de leurs militants. À la question alors de savoir si une révolution est aujourd'hui possible, nous aurons trois doublettes paritaires. Bonjour à vous tous, à commencer par Diane et Jean-Philippe pour l'UMP.
Bonjour.
Bonjour.
Maëva et Josquin pour l'organisation communiste Futur Rouge.
Bonjour.
Et Élise et Nicolas pour l'EPS.
Bonjour.
Bonjour.
Alors merci aux trois organisations d'être présentes avec nous pour une heure d'émission pour aborder le thème de la révolution. Alors évidemment, avant de commencer, on ne peut pas ouvrir sur le thème de la révolution sans parler des hommes qui ont fait l'histoire. Alors sans doute très attendu comme référence, mais il est vrai, son espagnol peut résonner encore aujourd'hui comme un appel à l'action. Et pour poser le thème, offrons-nous alors quelques secondes du discours historique du Che Guevara. C'était le 11 décembre 64 devant l'Assemblée générale des Nations Unies. Et on commence juste après ça.
La bestialidad imperialista. Bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado. Porque es la naturaleza del imperialismo la que bestializa a los hombres. La que la convierte en fieras sedientas de sangre que están dispuestas a degollar, a asesinar, a destruir hasta la última imagen de un revolucionario, de un partidario de un régimen que haya caído bajo su bota o que luche por su libertad.
On l'entend, le Che qui rendait hommage à son prédécesseur Lumumba et qui dénonçait surtout la bestialité de l'impérialisme. Alors la révolution semble partir nécessairement d'un constat de répression. Aujourd'hui, est-ce que ce constat peut-il être fait dans la France actuelle? La société actuelle comporte-t-elle des caractères répressifs? Et si oui, lesquels? On peut peut-être commencer par vous, l'organisation communiste Futur Rouge, Maëva et Josquin.
De fait, l'existence d'un État, c'est généralement l'existence d'une société de classe. L'État est fait pour maintenir justement des rapports d'exploitation de manière, entre guillemets, pacifique, mais également par la force. Donc en fait, même si ça n'a pas forcément les mêmes dimensions que ce qu'on voit comme répression à l'heure actuelle en Turquie, en Inde, aux Philippines ou dans d'autres pays, oui, il existe une répression contre les forces progressistes et les forces révolutionnaires en France. Certes, elle ne se manifeste pas par un régime de type fasciste, comme ça a pu être le cas par exemple par le passé, sous Pétain, sous Hitler, sous Mussolini, ou même encore à l'heure actuelle dans certaines régions d'Espagne. Mais toute société de classe entraîne forcément une réaction et une contrainte, une oppression de la part de la classe dominante vis-à-vis des classes exploitées.
D'accord, donc la société, par sa structure, est répressive. Et pour le PS, sur cette question?
En fait, pour moi, la question par rapport à ça, dans ce que vient de dire Josquin, c'est quelle est la place pour les habitants pour essayer de conduire leur destin. Et la question, pour moi, la question, elle est-ce que la démocratie, elle existe dans notre pays véritablement ou pas? Et il y a un certain nombre de critères, on peut dire que oui, on a des élections libres, il y a un certain nombre de critères, on peut dire que non. Parfois, des certain nombre de comportements qui peuvent... on peut considérer que c'est largement la limite de la démocratie.
Et la France de François Hollande, alors, incarne une société répressive? Incarnerait une société répressive?
Répressive pour qui? En l'occurrence, quand la société, elle pour moi, à mon sens, elle n'est pas assez répressive vis-à-vis d'un certain nombre de groupuscules qui ont montré par le passé et par leur actualité leur dangerosité et par aussi leur culture qui est complètement à l'opposé de ce qu'est la République française. Donc peut-être pas assez répressive dans ce cas-là. Tous les groupes d'extrême droite, soi-disant éloignés du Front National, qui sont en fait les mêmes, simplement une branche armée par rapport à la branche politique. Donc ces gens-là, à mon avis, on n'est pas assez répressif avec eux. Pour le reste, est-ce que c'est un régime démocratique? Il y a eu des élections et personne n'en a contesté, en tout cas dans les grands partis.
Donc pour vous, on n'est pas dans une société répressive aujourd'hui?
en tout cas une société démocratique. Après, l'usage de la force par la police, quand on est du mauvais côté des CRS, on trouve toujours que c'est trop. Dans l'opposition, je trouvais que c'était trop. Aujourd'hui, si je suis face à des CRS, certainement, je trouvais que c'est trop. Mais après,
et l'UMP sur
ça dépend comment c'est fait.
Dans les grandes lignes, je suis d'accord avec Nicolas. La France étant un pays démocratique avec des élections libres, une presse indépendante, même si on a de temps en temps quelques critiques sur la structure actionnariale de tel ou tel journal qui peut y avoir. Après, sur la répression, certains diront, par exemple, pour les manifestations du mariage pour tous, que c'était trop répressif. Et puis certains diront que lorsque le PSG a fêté son titre, la répression a un peu manqué. Lorsque l'on voit dans toutes les télés du monde un quart de touristes se faire piller, il est vrai qu'on peut se demander où est la répression en France. Ça, il est vrai qu'au niveau de la sécurité, on peut demander... Bon. Après, dans les grandes lignes, oui, la France, que ce soit sous François Hollande ou Nicolas Sarkozy, n'a pas changé de régime démocratique. On est toujours dans la Ve République. Alors certains diront qu'il y a trop de répression avec un régime parlementaire à dérive présidentialiste. Mais après, on est quand même classé dans les grandes démocraties du monde.
D'accord. Alors, répression ou non, il y a quand même cette violence. Et en tout cas, on peut constater cette montée de la violence. Et puis, l'actualité des derniers jours nous montre aussi avec la mort, par exemple, du jeune Clément Méric. On ne va pas parler longtemps de ce sujet, mais on passe quand même un petit moment. Alors, les diverses organisations politiques ont rendu hommage à ce jeune Clément Méric. Je voulais vous avoir votre position sur cet événement, un événement donc, qui montre cette violence, un événement aussi qui peut, pour certains, indiquer, pourquoi pas, un éveil, un sursaut à une révolution, à une insurrection. Qu'en pensez-vous sur cette question ? À vous, qui veut prendre la parole. Par exemple, est-ce que le PS a été une organisation qui a rendu hommage à Clément Méric ?
Évidemment.
Comment vous l'avez fait ?
Il y a eu un rassemblement le jour même de sa mort. On a rendu hommage à Clément Méric parce que je pense que là où la violence s'exprime dans toute sa violence, en fait, c'est tout simplement dans le fait qu'un homme de gauche, ou même s'il avait été de droite, en fait, est mort pour ses idées. Et je trouve que ça exprime quelque chose de grave dans notre société, et c'est peut-être là où les citoyens de notre République ont un rôle à jouer, et je pense que chaque membre de cette République devrait dénoncer la mort de Clément Méric, et devrait pas l'utiliser politiquement comme on a pu voir, mais s'en servir pour un sursaut républicain.
Et ce sursaut républicain, il serait révolutionnaire, c'est quoi la
révolution, ce serait pour moi en tout cas la révolution, c'est s'attaquer à un système en place. En l'occurrence, la révolution, on pourrait tout simplement la faire contre les groupuscules d'extrême droite qui ont battu à mort Clément Méric. Je pense que la révolution, c'est contre le système établi, alors qu'en fait Clément Méric a été assassiné par des groupuscules d'extrême droite qui en l'occurrence n'ont pas le pouvoir en France.
Et sur cette question, alors l'organisation communiste Futur Rouge, la révolution aujourd'hui, elle se fait dans le combat contre l'extrême droite ?
Bah en fait, le fait est que Clément Méric, il a participé à des manifestations, etc. Il était militant antifasciste et militant à Solidaire Étudiant, et qu'il a participé aux manifestations, aux rassemblements pro-égalité, rapport au mariage pour tous, etc. Et que, par rapport à tout ça, le PS qui est au gouvernement a laissé traîner un débat qui a permis à toute la violence réactionnaire de s'organiser, d'être visible, etc.
Donc le gouvernement.
De fait, il y a une responsabilité, puisque ces groupuscules d'extrême droite ont eu la possibilité de s'exprimer et qu'il y a eu instrumentalisation du débat.
Et donc pour vous, il est où le combat ? Il est contre l'extrême droite, là, ou en même temps contre le gouvernement ? Quel est vraiment votre.
Bah, il ne peut pas être que contre l'extrême droite et que contre le fascisme, parce que de fait, c'est. Ça fait partie intégrante de l'ordre établi, entre guillemets, du système capitaliste. Donc, de fait, on ne peut pas combattre juste cette petite partie.
Et sur cette question, Diane, juste l'UMP, vous avez rendu hommage à Clément Méric. Comment vous avez vu cet événement ?
Pour la droite, je ne m'exprimerai pas avec mon avis personnel. Une révolution, comme disait Robespierre en 1793, et la guerre de la liberté contre ses ennemis. Donc, à mon sens, ce serait inutile de faire une révolution pour un jeune homme qui, certes, est mort. C'est regrettable, c'est une perte. Je n'ai rien contre. Mais entraîner une révolution qui va également entraîner et engendrer une guerre causera certainement plus de morts. C'est bête à dire, mais c'est un dommage collatéral. C'est les aléas de ce qui se passe en politique. Parfois, il y a eu également, durant les manifestations pour le mariage pour tous, du côté de ceux qui étaient pour, des personnes qui se sont fait poignarder, etc. Donc, elles ne sont pas forcément mortes, mais bon...
Juste sur cette question-là.
Qui était contre, pardon.
Juste, cette question est quand même un peu brûlante parce qu'on parle de la mort d'un individu. Donc peut-être qu'on va s'arrêter là au niveau des termes. Ça peut être mal interprété et je pense que ça peut faire l'objet du conflit. Alors juste sur cette question-là, cette violence. Alors quand même, est-ce qu'on peut dire que là, la violence, ça peut pas être un signe justement d'une volonté là, de faire autre chose? Après, est-ce que c'est un souffle révolutionnaire? Que veulent vous, militants? Jean-Philippe, à l'UMP, est-ce que à l'UMP vous constatez une guerre civile et vous sentez que la population a envie de quelque chose?
Disons que le climat, qu'il soit social ou sociétal, est extrêmement tendu actuellement. Pour reprendre ce que disait nos camarades du Front de Gauche, enfin de l'Ali communiste, je crois. Je confonds avec les confédérations.
Alors, organisation de communiste.
Organisation communiste, parce que comme on n'a pas tous les mêmes noms au niveau de nos organisations jeunes. Oui, on se retrouve. Bon, actuellement, le climat est certes extrêmement tendu. Le mariage pour tous a duré trop longtemps. Lorsque l'on prend l'exemple en Angleterre du Parti conservateur qui a fait passer le mariage homosexuel, ça a duré 2 jours de débat parlementaire. Moi, j'ai le souvenir, l'année dernière, lorsque j'étais encore étudiant, de collègues socialistes. Tu verras, Jean-Philippe, quand on sera majoritaire, dans les 6 mois, on fera tout passer. Nos textes sont prêts. Et le mariage pour tous et le syndrome de ce gouvernement qui on peut le dire ouvertement dans l'opinion à terre au niveau des sondages, puisque même Nicolas Sarkozy, que vous avez tant hué au Parti socialiste, était quand même un petit peu plus haut et au bout de 4 années de mandat. Après, est-ce que le peuple est prêt à faire les révolutions? Bon, la révolution passe aussi par les urnes. Les prochaines échéances locales nous montreront, je pense, malheureusement, un taux d'abstention record. Est-ce que certains, avec la réforme des retraites, vont essayer de se saisir du sujet pour essayer de renverser le régime? Après, je pars du principe que les institutions sont solides et qu'avant qu'elles soient renversées, il se passera quand même un certain laps de temps.
La question de la révolution par les urnes, pour l'organisation communiste Futur Rouge, ça vous parle?
Non, mais il faut être sérieux un instant. Je veux dire, quel que soit le gouvernement qui soit élu, quel que soit, par exemple, admettons, ce soit le Front de Gauche ou Dieu sait quel autre groupe qui est une émanation, au final, quelque part, du PS ou des dissidents du PS qui se sont barrés, ce qui était le cas, par exemple, de Mélenchon. Peu importe quel est le programme qui sera fait, qui sera mis en place, à partir du moment où il sera élu, à qui vont présenter ce programme? Ils vont présenter ce programme à ceux qui financent l'État, ceux qui tiennent également les dettes d'État. Et c'est eux qui, en dernière instance, valident ou pas la politique d'un gouvernement, puisqu'ils peuvent choisir de la soutenir financièrement ou pas. C'était le cas, par exemple, pour le Front de Gauche. Méchant lapsus, pour le Front populaire dans les années 30, qui a dû faire sa pause dans ses réformes, justement parce que la Banque de France refusait de continuer à financer la politique de ce gouvernement. De fait, c'est pas réellement la politique qui dirige. C'est principalement ceux qui ont le pouvoir économique, parce que ce sont ceux qui ont la possibilité d'influer sur les choses.
Donc, pas de révolution par les urnes?
Non, c'est absolument impossible.
Là-dessus, le Parti Socialiste?
Ouais, moi je trouve ça quand même un petit peu gonflé de reprocher au Parti Socialiste les débordements des gens qui, soi-disant, qu'on appelle improprement la manif pour tous, mais qui étaient surtout, d'abord la manip pour tous éventuellement, mais surtout les anti-égalité pour tous, quoi. Et donc du coup, quand on voit que sur un sujet comme celui-là, la droite et l'extrême droite manifestent ensemble, qu'on nous envoie à nous de faire émerger ce qui était la ligne de Sarkozy et de Buisson depuis un moment, qui était en fait le rassemblement de ces groupes-là, en l'occurrence, voilà. Après, qu'on considère que le travail parlementaire va pas assez vite. Quand il y a 5000 amendements déposés par la droite à l'Assemblée, et ensuite nous dire à nous que ça a mis plus de 2 jours, à un moment, il faut être... Après, on a essayé d'aller plus vite, on nous a dit que c'était un coup d'État. Parce que la procédure parlementaire allait plus vite. Donc faut arrêter un peu de se moquer du monde. Surtout pas considérer, à mon avis, que c'est de la faute aux gens qui essayent de faire avancer ce qui nous semble être l'idéal républicain, c'est-à-dire le deuxième mot, c'est l'égalité. Quand on veut faire avancer l'égalité, qu'il y ait des gens dans la rue qui manifestent contre l'égalité et qu'ensuite on nous reproche à nous d'avoir aidé l'extrême droite, là, faut quand même arrêter deux
Alors,
minutes.
Alors, sur le défi les mains dans la main avec l'extrême droite, on laisse UMP.
Je vais déjà revenir sur la procédure parlementaire, parce que moi, j'ai le souvenir, en janvier 2009, lorsque le gouvernement a modifié le règlement intérieur de l'Assemblée, que vous hurliez, en train de chanter à Marseillaise, coup d'État contre Bernard Accoyer, qui accélérait aussi la procédure du gouvernement. Donc, les 5 000 amendements, je n'oublie pas que pour la privatisation de GDF, vous en avez déposé 132 000. Donc, dire 5 000 contre 132 000, on a l'habitude.
Au gouvernement de ne pas avoir été assez vite, en l'occurrence.
Après, oui, si, parce que quand on est passé au Sénat, vous nous avez reproché la même chose. C'était à quelques semaines de l'élection présidentielle, puisque la privatisation a lieu quelques semaines avant l'élection présidentielle. Pour revenir à dire la manie pour tous, l'avis sur les manifestations, je suis d'accord, ça durait peut-être un peu trop longtemps, mais c'était aussi à vous d'accélérer un petit peu, certes, le débat parlementaire, et honnêtement, à faire peut-être un peu plus de pédagogie, alors, parce que traîner sur le débat...
On arrête sur la question le mariage pour tous, ça ne nous intéresse pas aujourd'hui, c'était simplement voir justement qui avait ce mouvement-là.
Sur la droite et l'extrême droite, alors...
Et pour vous, alors, la droite qui est dans la rue aujourd'hui.
J'ai toujours été de tendance gaulliste sociale et proche de François Fillon, ce qui fait que je n'ai jamais accepté de manifester avec l'extrême droite. C'est une des raisons pour laquelle, à titre personnel, je ne me suis rendu à aucune manifestation de la manif pour tous, justement parce que je ne voulais pas manifester avec le Front National. Après, il est vrai qu'il a été effectué plusieurs fois par l'UMP d'essayer de ne pas manifester avec eux, de les mettre dans des cortèges séparés, de ne pas les faire remonter jusqu'aux banderoles, puisque M. Collard s'est assez plaint. Alors, c'est vrai que les photos dans l'opinion sont absolument contestables, je reconnais, sur le fait qu'il manifeste, que Gilbert Collard manifeste à côté notamment de certains leaders, dont Jean-François Copé ou Christian Jacob. Après, je vais vous ressortir l'argument que vous aimez de moins en moins à droite, mais certes, le Front de Gauche est actuellement, c'est une participation, on ne peut même pas dire une participation au gouvernement, puisqu'ils n'ont pas de ministre, mais ils ne vous soutiennent pas. Mais vous êtes quand même bien content de manifester avec eux.
Alors, on arrête sur la question des manifestations. La question de la révolution, s'il y avait une révolution aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler d'une révolution conservatrice en France? On voit justement, là, avec... Toutes les manifestations contre la loi Taubira. L'organisation communiste Futur Rouge, là-dessus, une révolution en France?
Oui, en fait, le terme révolution conservatrice, je pense que c'est simplement une invention, c'est un fantasme, en fait. C'est simplement des gens qui ont l'impression que la société part en lambeaux ou des choses comme ça, et qui, du coup, se dressent par nostalgie d'un passé qu'ils voient comme glorieux, mais qui, en fait, était complètement pourri également. C'est un peu des nostalgiques d'un âge d'or qui n'a jamais existé. Mais de fait, la question d'une révolution en France, c'est pas qu'elle est souhaitable, c'est pas qu'elle est possible, c'est qu'elle est quelque part inévitable. De fait, le caractère du capitalisme à l'heure actuelle, qui a un caractère complètement pourrissant, ça se voit dans la crise économique, ça s'est vu dans toutes les crises qu'il y a pu avoir, où il y a une poignée de parasites qui récupèrent pour eux toutes les rentes, qui récupèrent pour eux tous les bénéfices d'entreprise, mais qui ne participent absolument pas au processus de production.
Donc les parasites qui seraient
les actionnaires, le patronat, les directions des banques, qui sont des gens qui ne participent pas à la production, qui ne produisent aucune richesse, qui se contentent juste de récolter de l'argent par ce que Lénine appelait la tonte des coupons. Et voilà, et ces gens-là sont des gens qui font partie du passé, qui font partie de l'histoire et qui doivent aussi prendre la porte de la sortie. Parce que de fait, leur présence parasitaire et l'exploitation qu'ils maintiennent en s'accrochant du bout des ongles, ce qui explique justement la montée aussi des groupes d'extrême droite, que ce soit en France ou que ce soit dans des autres pays, c'est parce que justement ils sont obligés de faire appel aux groupes d'extrême droite, aux groupes fascistes, pour pouvoir maintenir justement la terreur et l'ordre, caporaliser la société, parce que sinon elle finit elle-même par s'effondrer.
Et vous qui êtes d'extrême gauche, il y a aussi une montée des groupes d'extrême gauche et l'usage de la violence chez vous?
On considère généralement... Je vais vous donner un exemple historique, en fait, qui répondra.
Non, mais je veux juste aujourd'hui... Non, mais ça sera très parlant. De l'extrême gauche.
Voilà, moi, pour ma part, je considère qu'on est... On représente une démocratie qui est une démocratie qui est différente de celle, justement, des urnes, où, au final, c'est toujours les partis...
Est-ce qu'il y a l'usage de la violence, concrètement?
On ne se refuse aucune possibilité. C'est la chose que j'ai à dire, mais la violence a toujours été historiquement, dans chaque révolution, du côté de l'oppresseur et du côté justement des classes qui avaient l'État et le pouvoir.
Et sur cette question de l'usage de la violence par l'extrême gauche, par exemple le Parti Socialiste, sur cette question, on a entendu après l'affaire Méry qu'il fallait condamner la violence de l'extrême droite. Donc on ne peut pas en parler aujourd'hui, on n'a pas de représentants et ce ne serait pour le coup pas démocratique. Mais finalement, donc là, on voit que l'usage de la violence n'est pas condamné par les groupes d'extrême gauche. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ?
Je condamne, pour ma part, toute forme de violence, que ça vienne de l'extrême gauche, que ça vienne de l'extrême droite, je suis non violente et on ne répond pas au mal par le mal. Après, quelle révolution on veut ? On parle d'une révolution, on cite 1789, on pourrait même encore citer les printemps arabes. Je pense qu'il faut aussi passer par une révolution dans les esprits. C'est une révolution qui est d'abord démocratique, une révolution pour aller vers la 6ème République, avec le non-cumul des mandats, le droit de vote des étrangers, et aussi une révolution républicaine. On n'est pas obligé de rentrer dans la violence pour faire la révolution. Et il faut qu'il y ait une prise de conscience de chacun, de son rôle, dans ce beau, projet collectif qui est la République française. Et il faut aussi cultiver la culture du contre-pouvoir et du dialogue social. Il faut aussi que les élus de la République, pour passer aussi par une révolution démocratique et républicaine, prennent conscience que leur rôle n'est pas de faire passer l'intérêt personnel avant l'intérêt général. Et je pense qu'on peut peut-être s'interroger sur le type de révolution qu'on voudrait aussi pour la République française.
Alors la question du dialogue social, finalement, là tu viens d'en parler avec cette révolution des esprits, comme tu l'appelles. La loi sur l'emploi a été validée dans sa quasi-totalité par le Conseil constitutionnel le 13 juin. Et Michel Sapin disait que c'était le fruit du dialogue à la française. Alors que dire de ce dialogue ? Est-ce que vous pensez que ce dialogue-là, est-ce qu'il faut croire ? Au dialogue, l'UMP, le dialogue social.
Pour revenir à ce que disait Élise sur la révolution par les grands principes. Alors, il est très facile de dire la révolution par les grands principes lorsque l'on sait que la moitié des parlementaires du groupe socialiste ne veulent pas entendre parler de la loi du cumul des mandats, que la majorité des 3/5 au Sénat et à l'Assemblée est absolument impossible, donc il n'y aura pas de droit de vote des étrangers. À cause de qui ? Mais j'avoue, je suis contre le droit de vote des étrangers. Les parlementaires du parti que je représente aujourd'hui et de l'UDI sont, pour la quasi-totalité, contre. Mais après, il est facile d'agiter le Front National. Enfin, dimanche, vous verrez à peu près l'état de votre gouvernement lorsque l'on aura les résultats de la circonscription du Lot-et-Garonne.
Juste, Jean-Philippe, sur cette question, par exemple, là, de la validation de la loi sur l'emploi, oui. Finalement, ce dialogue social, il a fonctionné ? Le gouvernement a réussi son pari en mettant autour de la table syndicats.
Ah mais oui, en France, on a énormément à apprendre du modèle allemand qui est notamment dans l'entreprise Volkswagen, de pouvoir tous se mettre autour de la table, les actionnaires, les syndicats et les représentants du personnel. Sauf qu'avec le temps, l'accord ne va peut-être pas assez loin pour certains, trop loin pour d'autres. Bon, l'accord a été entériné. Il est vrai que c'est une méthode de travail que plus souvent certains développent, notamment François Fillon, qui a voulu plusieurs fois essayer de tendre la main pour le dialogue social. Alors après, il est vrai que lorsque l'on a, comme actuellement, et là-dessus je vous plains le gouvernement et ses représentants, des gens qui avant le débat sur la réforme des retraites, nous n'accepterons aucune concession dans aucun sens. Il est vrai que du côté des syndicats salariaux, c'est un peu plus compliqué. Après.
Et Diane, sur la question, Élise a proposé la révolution des esprits.
Donc, pour la révolution des esprits, il me semble que ça passe par une révolution de la culture et donc de l'éducation. Et à ce moment-là, je pense que je rejoindrais, pour ma part en tout cas, plus l'organisation communiste Futur Rouge. Dans le sens où j'estime qu'une révolution, si elle doit être bien faite, doit forcément passer par la violence. Une révolution de la culture et par l'éducation n'est pas possible dans le sens où la majorité du peuple n'est pas suffisamment instruite pour pouvoir comprendre les intérêts. Bah, c'est mon point de vue.
L'organisation communiste Futur Rouge, peut-être préciser, l'usage de la violence, là on va prendre quelques moments. Est-ce que concrètement, c'est vrai qu'on vous connaît un peu moins? Vous pouvez nous parler comment vous concevez cette violence ? Est-ce qu'elle est dans la pratique ? Est-ce qu'on peut parler de combat physique ? Puisque Diane vous rejoint sur cette question de la violence, alors qu'on soit peut-être...
Oui, c'est déstabilisant même. non, mais la violence physique. de fait, si il doit y avoir révolution, les classes dominantes vont pas se laisser faire et vont pas vouloir laisser partir leurs petits privilèges, machin, tout ça, leur petit bien-être personnel. Et donc, de fait, il y aura violence, forcément. Après, dans une révolution, enfin, oui, il y aura forcément violence et il y aura une opposition physique. Mais alors, après. Enfin, ton discours sur la non-violence et tout, il est bien joli, hein, y a pas de souci. Mais, enfin, par contre, voilà, une réponse qui sera pas dans tes petites notes. Quand on utilise les droits démocratiques, donc droit de grève, etc., on se fait quand même réprimer, en fait. Pour exemple, enfin, il y a eu des morts, genre par exemple le 19 juillet, 3 morts. Et, enfin, ça c'est de la répression. Et pourtant, le droit de grève, il paraît que c'est démocratique et que c'est dans
Alors là-dessus, on voit bien l'organisation communiste Fuse Rouge qui dit que finalement, la violence, il reste plus que ça pour éviter la répression et qu'il n'y a pas d'autre moyen de faire triompher des valeurs là-dessus.
Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, savoir qui est mort et comment? Parce que pour pouvoir répondre, c'est mieux. Non, tu peux nous dire qui est mort et de la faute de qui et comment ça s'est passé? Parce que pour le coup, je ne sais pas, je ne peux pas te répondre dessus, mais dis-moi.
Alors,
tu as parlé de 3 morts le 19 juillet ou je sais pas quoi là. Tu peux nous dire qui c'est et où, enfin, ce qui s'est passé quoi.
Bah non.
Ah bon. Bon bah non, d'accord. Mais... Bon bah non, alors, alors en fait, enfin, avec des non, morts, je pense on peut faire plein de trucs quoi.
Vas-y,
je t'en prie. Non, en fait, c'est vrai que moi l'exemple qu'a sorti ma camarade, j'avoue qu'il ne me parle pas. En revanche, il y a eu énormément de cas. Par exemple, si on prend l'exemple des grèves lors des raffineries qui ont eu lieu pendant la réforme des retraites. Du fait que ce soit un secteur stratégique, et malgré qu'ils utilisent un droit démocratique qui était le droit de grève, il y a eu l'envoi de l'armée, et il y a eu le déblocage fait manu militari par, justement, par l'armée des raffineries. Également, c'est vrai qu'il y a des manifestations où il y a énormément de provocations qui sont faites par la police, mais ça, pourtant, il faut se dire que c'est juste des cadres de manifestations et de grève, donc des choses qui sont déjà dans un cadre démocratique, républicain, peu importe comment vous l'appelez. Je vais reprendre l'exemple historique que je voulais dire. L'insurrection de 1917, qui a été faite par les soviets, celle d'octobre, elle a fait 3 morts, qui étaient 3 gardes du palais du Tsar à Petrograd. En revanche, c'est la contre-insurrection qui a été faite par les armées blanches, qui a été faite notamment par l'intervention également de la France, de l'Angleterre, des Tchèques, du Japon, des États-Unis, peu importe, il y en a d'États, a fait, elle, des millions de morts. Pourquoi? Parce qu'ils refusaient qu'il y ait une prise de pouvoir par les bolcheviks à Petrograd. Parce que du coup, ils ont été jusqu'au bout, jusqu'à l'utilisation justement de la guerre, comme ça a été le cas d'ailleurs dans toutes les révolutions, c'est... Le premier à utiliser la violence, c'est l'oppresseur, c'est celui qui tient les rênes de l'État, et c'est généralement ceux qui sont les capitalistes du côté de la bourgeoisie. Il n'y a aucun autre exemple historique. Même l'insurrection de Shanghai en 1927, c'est le Kuomintang, qui était le parti nationaliste, qui était lié aux États-Unis, lié justement aux impérialistes étrangers, qui a ouvert le feu sur les militants communistes. Parce qu'on n'a pas besoin, nous on considère qu'on a la légitimité, on n'a pas besoin d'utiliser la violence. En revanche, on l'utilise pour se défendre et on est prêt à se défendre jusqu'au bout.
Une révolution sans violence alors?
En l'occurrence, tu parlais tout à l'heure, dans la préparation, tu parlais de 11 septembre. Moi, le 11 septembre auquel je pense, c'est celui d'Allende. Et Allende, il est arrivé au pouvoir par les urnes et il a été délogé par la force. Et il a fait une vraie révolution dans son pays, Salvador Allende, avant d'être tué. Et il y a encore des... Oui, il en est mort. D'accord, mais il est arrivé au pouvoir démocratiquement il a fait une vraie révolution dans son pays. Il y en a d'autres, des personnes qui ont pris le pouvoir par les urnes pour modifier les choses en profondeur. Et effectivement, la violence aujourd'hui, elle monte. Quand on voit, je suis désolé de revenir dessus, hein, mais quand on parle du décès du jeune Méric, en l'occurrence, des gens qui sont victimes d'une violence d'extrême droite dans des conditions très dures, il y en a tout le temps, à Lyon, de très nombreux, et des violences dans tous les cas. Il y a beaucoup de tensions, beaucoup de violences dans notre pays, et je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument arrêter, parce que cette violence-là, en tout cas, elle ne porte pas les valeurs auxquelles je crois quand elle s'exprime. C'est des extrêmes dans plein de domaines différents. Et moi, je ne mélange pas l'extrême gauche et l'extrême droite. Faire ce que fait mon petit voisin de droite, à tout point de vue, entre le Front de Gauche et le Front National, je trouve ça complètement insupportable parce que, en l'occurrence, le Front de Gauche reste dans le domaine républicain sur plein des domaines, sur beaucoup de domaines, alors que le Front National, lui, il soutient, même sans le dire, un certain nombre de personnes qui combattent la démocratie et la République française. Donc cet amalgame-là, il est insupportable à mon avis. La révolution que je ne souhaite pas dans sa version d'extrême droite comme elle pousse aujourd'hui en France et en Europe, en Grèce quand on voit que c'est des milices qui remplacent parfois la police, quand l'État est absent, en l'occurrence d'autres prennent sa place, et je pense que c'est pas ça qu'on doit faire pour le bien-être de tous, à
Alors,
mon avis.
L'UMP, sur la question de la violence, parce que comme vous en avez un peu parlé...
Sur la violence, oui. Alors, lorsque l'on me dit la révolution en URSS n'était pas violente, on oublie les 50 millions de morts et les 10 millions de personnes qui ont quand même été envoyées dans les goulags au motif qu'ils avaient été un petit peu trop embourgeoisés en étant en Europe de l'Est.
Là, il parlait de l'année 17, d'octobre 17.
Oui, non, mais c'est facile de prendre la parole qui va... Alors, la révolution sans la violence, certains diront que ça a été extrêmement violent, mais si l'on prend les révolutions des esprit, comme disait tout à l'heure Diane, ou des façons de travailler, notamment par exemple sous Reagan, c'était pourtant les urnes. Et bien oui, mais vous pouvez bien dire ce que vous voulez, mais là, quand tout à l'heure on parlait de révolution conservatrice, la révolution conservatrice c'est avant tout sous Reagan et sous Margaret Thatcher.
Et vous voulez à l'UMP une révolution
conservatrice? Non, mais le programme qui avait été fait à l'époque par Jacques Chirac et par Édouard Balladur, je suis désolé, mais il n'y avait rien de violent en France. On a quand même fait des réformes des retraites, il y a quand même eu certaines choses.
Et justement, alors cette question, rien de violent, et cette révolution conservatrice à l'UMP, comment est-elle cette révolution des esprits aujourd'hui, alors les jeunesses UMP.
Non, la jeunesse UMP n'est pas la jeunesse nationaliste, désolé. La jeunesse UMP est avant tout dans un parti de gouvernement.
Diane, là-dessus, peut-être répondre comment vous voyez cette révolution des esprits à l'UMP.
Je préfère laisser parler Jean-Philippe dans la mesure où j'ai un point de vue assez dissident par moment sur certains points de vue, comme celui de la révolution.
D'accord. Jean-Philippe.
Disons que, contrairement à ce que l'on nous fait passer, tout le monde n'est pas adepte de l'alliance avec le Front National. Et je suis désolé, Nicolas, de revenir dessus, parce que lorsque tu dis c'est insupportable de mêler l'extrême gauche et l'extrême droite, lorsque tu prends le programme de Jean-Luc Mélenchon et de Marine Le Pen, si t'enlèves l'immigration et l'insécurité, t'es à peu près au même.
Et si t'enlèves l'immigration et la sécurité au Front National, il reste pas grand-chose.
Bah si, il reste maintenant un programme, une espèce de pseudo-programme économique qui est aussi peu, qui est le même que celui de Jean-Luc Mélenchon. Alors la révolution, lui, il appelle la révolution en nommant des gens à la Robespierre pour à peu près les...
Du coup, Jean-Philippe, aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait déclencher votre révolution, la révolution que souhaite l'UMP, là? Comment vous allez...
L'UMP d'abord est un parti démocratique, donc n'appelle la révolution que par les urnes. On n'appelle pas à manifester. On n'appelle pas à la grève générale. Alors, pour reprendre ce que
les municipales, les municipales, les européennes, par les urnes.
Voilà, les européennes. Reprendre le Sénat avec 6 sièges de majorité. Encore que, vu la majorité relative que vous avez, ça se demandait si le Sénat est encore de gauche, mais ça c'est encore un autre débat. Non, on n'appellera pas à la grève générale. Les grands bourgeois, comme vous avez l'air de nous appeler, on n'appellera pas non plus à faire la grève des capitaux. On ne peut pas dire que l'évasion fiscale, certes, il y a quand même de plus en plus d'entrepreneurs qui partent, mais c'est quand même pas non plus la fuite. C'est pas 1924 avec Édouard Herriot qui le gouvernement tombe. On ne peut pas dire qu'actuellement, ça ne soit pas la grève générale. Même si l'économie va très mal à cause des augmentations d'impôts, de taxes et tout ce qui va avec depuis plus d'un an. Et lorsque, si je reprends les mesures de M. Sapin qui disait un gouvernement doit démissionner avec tant de mois de chômage, on est quand même en ce moment, on va bientôt rentrer dans le 12-13e mois de gouvernement socialiste, on est quand même à 13/13.
Élise, donc sur cette révolution des esprits, on va en finir, mais pour que tu dises bien, qu'est-ce qui pourrait déclencher aujourd'hui? Est-ce que là le Parti Socialiste met en marche un nouvel axe après donc cette loi de Sebira, les accords sur l'emploi, ça fait partie aussi d'un projet de finalement contrer une révolution conservatrice. Est-ce que
je vais pas nous expliquer du Parti Socialiste, parce que
du MJS, oui, Élise, on précise, MJS, mouvement des jeunes socialistes.
Je ne parle pas non plus au nom du mouvement des jeunes socialistes, parce que tout simplement parce qu'on a encore jamais eu ce débat là parmi nous, même si c'est, je pense, quelque chose que chacun à laquelle chacun peut réfléchir, et on pourra d'ailleurs éventuellement en faire un débat. Je pense que vraiment cette révolution dans les esprits passe d'abord par une prise de conscience non violente, et même si c'est prendre conscience que chacun a un rôle à jouer dans la République française. C'est que par exemple, on parlait d'éducation, Diane citait l'éducation en disant que la plupart de nos concitoyens n'étaient pas assez instruits. Moi, ça me fait un petit peu hurler, mais c'est aussi que
les
professeurs...
Mais vous n'avez pas peur, vous, de gauche, d'avoir cette révolution conservatrice aussi en face, qui est là et qui manifeste jusqu'à aujourd'hui?
Est-ce que j'ai peur d'une révolution des conservateurs?
Oui.
Non. Non, non. Mais c'est vraiment faire en sorte que chacun prenne conscience de son rôle. Et donc, j'en étais à dire que les professeurs, par exemple, ne soient pas là seulement parce qu'ils sont payés pour le faire, mais aussi qu'ils transmettent les valeurs de la République. Et d'ailleurs, Vincent Peillon l'a mis en place, hein, avec la morale républicaine dans les écoles. C'est aussi prendre conscience
que les entreprises ne sont pas seulement là. Est-ce que ça, c'est une révolution des esprits ?
Pardon ?
C'est une révolution des esprits que de transmettre les valeurs républicaines. Ça n'existe pas aujourd'hui, alors.
Ils n'ont pas l'impression d'être soutenus, que ce soit sur le plan des moyens qui leur sont alloués, et je parle financièrement comme humainement, hein, parce que en parlant en connaissance de cause, ma mère est dans l'éducation nationale, on voit que, enfin, il y a un progrès qui est fait par le gouvernement, de par la révolution, par la réforme Peillon, pardon. Et c'est aussi que, par exemple, les entrepreneurs prennent conscience qu'ils ne sont pas seulement là pour faire du profit, mais parce qu'ils ont des employés en dessous et que chacun doit considérer l'autre avec du respect et non pas comme une machine à sous.
Alors, c'est le principe du général de Gaulle, de la participation et de l'intéressement. C'est exactement ça.
Côté organisation communiste Futur Rouge, ça boue sur la chaise. Et peut-être Josquin, quelque chose à dire.
Il y a un truc qu'il faut que je réponde. Déjà, sur la violence des groupes d'extrême droite, je suis désolé, la position de Gérard Collomb, qui était quand même « Ouais, l'extrême gauche et l'extrême droite, c'est la même chose, il faut les liquider », parce qu'on a à peine essayé de lui parler quand il sortait de la mairie, et tout de suite, il y a la BAC qui a débarqué et ils ont commencé à menacer tout le monde.
Ça, je pense que c'était.
Oh, pauvre chaton, j'espère qu'il s'en remettra.
Des matraques, en fait, ou des marres
de
fer,
le problème, c'est qu'il y avait des gens avec des matraques autour de lui. Indépendamment de ça, l'État, il a eu ainsi un rôle à jouer, justement, dans monter des groupes d'extrême droite, particulièrement à Lyon, où la préfecture, que chaque fois qu'elle arrêtait des fachos, ils étaient toujours systématiquement remis en liberté, avec un petit contrôle derrière, parce qu'on leur disait, ouais, calmez-vous, c'est bon, gnagnagna. Mais en fait, c'est un usage, parce que moi, je suis persuadé que la préfecture, notamment de Lyon, elle a des idées derrière la tête vis-à-vis de ces groupes d'extrême droite, parce qu'ils ont bien dépanné le jour. C'était le 23 janvier 2009, où on a fait le rassemblement, justement. Bah, pour le coup, c'était contre Besson. Et où la police a sciemment laissé passer les groupes d'extrême droite pour qu'ils attaquent le cortège. Alors du coup, je suis désolé, peut-être que c'était l'UMP à cette époque-là, mais ça reste quand même l'État. Et l'État n'a pas changé, le préfet n'a pas changé, que ce soit la gauche ou la droite au pouvoir. Donc quelque part, voilà. Ensuite, sur l'accusation de les groupes d'extrême droite, ils ne sont pas républicains, ils ne sont pas démocratiques. Moi, pour ma part, je ne suis pas républicain pour un sou.
Alors là, du coup, on
indépendamment
a
la... de ça. Non, je.
Républicain parce qu'il y a l'usage de la violence et le non-respect.
Non, c'est parce que cette république, c'est une l'État. République qui n'est pas du tout une république démocratique. C'est une république bourgeoise. C'est une république qui sert les intérêts des capitalistes. Et c'est vrai que la théorie, justement, voilà, c'est
donc,
ça, c'est typique.
Si tu n'es pas républicain, si vous n'êtes pas républicain, du coup, comment vous vous définissez ?
Moi, je suis pour la démocratie populaire, pour la démocratie directe. Mais justement,
c'est le Corée du Nord.
Non, c'est le Juche. On peut en débattre aussi si vous voulez, il n'y a pas de souci, mais le Juche, c'est quelque chose qui est quand même différent, même dans ses fondements. Indépendamment de ça, la révolution des esprits, mais je suis désolé, un employeur, un entrepreneur va lui dire ouais, mec, tes employés, faut que tu sois sympa avec eux, faut que tu leur donnes un peu plus d'argent. Mais lui, son intérêt, c'est de faire, s'il a créé sa entreprise, c'est pour faire des profits. Et donc, justement, c'est son intérêt de faire des profits. C'est pareil pour les patronats. Je veux dire, qu'est-ce que vous allez faire? S'il le fait pas, il dit non, allez vous faire foutre, je les exploiterai comme des porcs. Et justement, le modèle allemand, c'est ça, c'est 5 euros de l'heure, 1 euro de l'heure quand t'es chômeur et que t'es obligé de travailler pour 1 euro de l'heure. Et voilà, c'est ça, tu vas faire quoi? Si bien, allez vous faire foutre et moi
coup,
je continue à exploiter comme un porc.
Josquin semble parler de la nature humaine qui est intéressée par le profit.
Non, c'est pas la nature humaine, c'est l'intérêt de classe.
La nature humaine qui serait définie par l'intérêt humain à... Diane a une réaction là-dessus.
Juste une petite question. Tu n'es pas capitaliste, donc ça j'ai bien compris. Qu'est-ce qui te motive dans la vie si ce n'est l'argent?
Il y a une différence, il y a une distinction entre l'argent et la satisfaction des besoins matériels. D'accord. On a besoin de choses pour vivre,
oui.
Mais l'argent en tant que tel, ça correspond pas à la satisfaction des besoins.
L'argent, les biens matériels, j'englobe le tout en fait.
Il y a les biens culturels
plus tard
aussi,
dans ta
également.
Vie, oui. Est-ce que tu t'es dit quand t'étais tout petit, non bah plus tard de toute façon, moi je voudrais être, je sais pas moi, pauvre dans ma chambre avec des livres et passer ma vie à faire ça, yeah. Ou alors j'ai envie d'être chef d'entreprise avoir plus des milliers d'employés à
c'est un petit peu à exploiter
mes pieds, etc.
Et ouais, mes pieds, ouais, c'est exact. En fait, c'est extrêmement bien résumé la manière dont je vois les choses. Mais toujours est-il, c'est que est-ce que le système capitaliste à l'heure actuelle il permet justement de répondre à ces besoins matériels et culturels de la population? Moi, je ne crois pas avec le taux de chômage qu'il y a. Je ne crois pas parce qu'on a une économie qui n'a jamais été aussi riche. Et pourtant, on dit ouais, il faudrait que vous travailliez plus longtemps. Bah, ça, du coup, c'est dédicace pour le PS avec la réforme des retraites qui est la continuité de la réforme de l'UMP.
Le gouvernement.
Ouais, mais je suis désolé. Quand on est dans un parti, on assume.
Exactement.
On assume.
Oui, les tout à fait. Exactement. On assume les 35 heures aussi.
Oui, ouais, mais on assume que ce qu'on a envie.
Alors, Jean-Philippe, je crois que vous répondez à Josquin, non?
Je termine juste là-dessus très brièvement. Et merde, du coup, j'ai perdu le fil. Mais
voilà, le capitalisme, il est pourrissant à l'heure actuelle, il est incapable de répondre aux besoins matériels des gens. Parce que, en plus, regardez, c'est complètement paradoxal. Vous dites, ouais, faut que vous travailliez plus longtemps parce qu'il n'y a pas assez de main-d'œuvre en France, ou parce que voilà, les gens, ils vivent plus longtemps. Oui, mais la productivité, elle n'a jamais été aussi haute. Et puis, s'il manque de main-d'œuvre, bah, faites appel à l'immigration. Ça a été le cas dans le passé. Et pourtant, voilà. Ça, c'est aussi une voie qui est refusée. Et les politiques de Valls, justement, là-dessus, sur l'immigration, sont les mêmes que celles de Sarkozy. Donc, à un moment, c'est le serpent qui se mord la queue. Et c'est juste le système qui est pourri. C'est pas
alors, Josquin dit la révolution, elle n'est pas possible. Votre révolution des esprits n'est pas possible puisque l'homme est intéressé simplement par.
En fait, pour l'instant, j'ai bien entendu ce contre quoi il était, mais je ne sais pas ce qu'il propose.
Ah, ça, je peux y répondre.
Mais pour l'instant, je n'ai pas entendu. Et du coup, ça serait intéressant que pendant notre débat, tu arrives à nous dire ce que tu proposes. Mais par contre, pour dire à Diane, à quoi on rêve dans la vie, moi, quand j'étais gamin, je n'avais pas d'être riche. Par contre, je rêvais d'être heureux. Et c'est pas toujours la même chose. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, avoir un boulot dans lequel tu t'éclates, c'est pas forcément celui qui est le mieux payé. Moi, j'ai un copain qui est trader, et ben il a une vie de merde, et pourtant il est blindé. Et j'ai plein de gens.
J'ai un ami qui est trader également chez Goldman and Sachs, et il est parfaitement heureux.
Et ben tant mieux.
Et très riche.
Ce que je veux te dire, non mais Diane, en l'occurrence, ce que je te dis, c'est pas que riche et heureux, c'est incompatible. Est-ce que tu peux me laisser terminer? Ce que je veux te dire simplement, c'est qu'en l'occurrence, le bonheur, c'est pas toujours. Tout le monde ne le voit pas de la même façon. Et il y a des gens qui peuvent être parfaitement heureux en vivement chichement, et des gens qui ont besoin de beaucoup d'argent ou de je sais pas quoi pour le faire.
Par contre,
quand même, qu'on puisse dire les choses sur ce en quoi on croit. Par rapport à ça, c'est-à-dire que quand on dit qu'il faut qu'il y ait des choses qui changent dans la tête, quand à un moment, Martine Aubry, elle parlait du Caire. Globalement, c'est là où on pense qu'il faut commencer à voir les choses autrement. C'est là où, avec certains amis qui sont écolos, on arrive à être ensemble d'accord là-dessus. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est aussi comment on prend soin de son voisin et de son environnement. Et que ça contribue à son bonheur. Parce que tu peux vivre avec beaucoup d'argent dans un endroit très pollué. Et avec des voisins qui te font la gueule, t'auras du mal à être heureux. Alors que globalement, l'entraide, et voilà. Qu'est-ce qu'on s'en fout des voisins? C'est la différence entre la droite et la gauche.
Non, ça dépend. Je m'entends très bien avec mes voisins. La seule différence que j'ai quand même entendue de la part de tous les deux tout à l'heure, c'est que les bonnes réformes de gauche, type 35 heures, qui sont pour vous de bonnes réformes et naturellement pas pour nous, on est content de les défendre. Par contre, votre gouvernement, vous êtes incapable de le défendre. Ça veut dire que pour les municipales, ça sera, on pensera bien, je vous offrirai un bon pot de peinture blanche pour gommer le logo du Parti Socialiste.
Bah, sur quoi, exactement?
Tout à l'heure, j'ai entendu Élise dire non, on ne soutient pas le gouvernement.
Non, on n'a pas dit ça. On n'a pas dit c'est pas le PS qui est en train de faire, c'est le gouvernement.
Ah oui,
c'est
gouvernement,
ça qu'elle a dit.
Qui
et le gouvernement, il y a 36 socialistes.
Il y a 36
dedans,
socialistes et 4 écolos.
Pour le coup,
oui,
avant de critiquer la réforme sur les retraites, il faudrait qu'elle soit. Qu'elle
c'est
existe.
Ce que je te dis. Oui.
Bah, pour l'instant, on en parle. Donc quand elle aura lieu, on pourra en discuter.
On est très content de voir.
Et tu me connais suffisamment pour savoir que je soutiens pas intégralement à 100% tout sur tout, parce qu'en l'occurrence, on est un parti démocratique et qu'on a le droit d'avoir son avis.
Bien sûr.
On s'arrête là, on parle de la Turquie qui est aussi dans l'actualité. Et puis ça nous intéresse un petit peu parce qu'il y a, comme en France, pourquoi pas, on sent ce soulèvement, un soulèvement populaire. Alors, quelque chose d'intéressant, on ne va pas parler du cas en spécifique, de ce qui s'est passé, place Taksim. Je voulais juste parler alors, de la proposition du référendum qui a été faite. La question du référendum, est-ce qu'elle peut être vue finalement comme un bouclier démocratique qui empêcherait à raison qu'une révolution se fasse?
Mais en fait, c'est exactement comme le vote, comme les élections présidentielles ou quoi, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que le référendum, c'est un moyen utilisé par le système pour soit amener les gens à parler dans son sens, soit si les gens sont pas d'accord, à le faire quand même d'une autre manière. Donc, de fait, ça, c'est en gros.
Mais vous qui voulez, par exemple, une révolution,
ce sera pas par un référendum.
Ça, non, mais bien sûr que non. Mais le référendum, il a finalement, on peut dire, il va apaiser une situation. On va permettre.
Mais du coup,
il est vu comment pour vous le référendum?
Oui, c'est ça, c'est une vaste blague.
Et pourtant,
ça fait partie des moyens de la démocratie directe que vous avez l'air de prôner.
Alors, franchement, le référendum, là, et de la manière dont il est fait comme ça, enfin non, je suis désolée, non, ça n'a rien de démocratie directe. C'est en gros, on vous pose une question, par exemple, type la Constitution européenne, on vous dit de répondre par oui ou par non.
Donc la démocratie directe pour toi, Maëva.
La démocratie, ben de toute façon, là sous le système maintenant, enfin elle est pas, c'est pas, ouais, c'est pas possible de la mettre en place.
Quelle pourrait être une représentation de démocratie directe si le référendum ça n'en est pas.
Une représentation de démocratie directe, mais enfin dans le cadre comme ça ou
par
alors,
exemple oui les manifestants.
Parce que là une expression de la démocratie directe, ça peut être bah, le peuple dans la rue. Actuellement, mais en même temps, disons que la démocratie directe telle qu'on la conçoit, elle est pas, on peut pas la mettre en place sous ce système-là.
Et donc l'usage de la force, là, dans le cas de la Turquie, finalement, il y a eu aussi répression. L'usage de la force, vous en parlez. Quelles limites, finalement, vous, organisation, vous émettez sur cet usage de la force? Y a-t-il des limites?
C'est-à-dire par rapport à la force?
Excusez-moi, je comprends.
C'est-à-dire réprimer une révolution. Est-ce que pour vous, qui êtes vous-même...
Si la terreur t'aurait approuvé, par exemple, pour revenir tout à l'heure, je parlais de Robespierre.
Sincèrement, je pense que oui, j'aurais approuvé. Parce que ça correspondait à une nécessité, il y avait une menace intérieure, une menace extérieure, et c'était que par la mobilisation de masse que ça a été possible de pouvoir justement triompher de cette menace extérieure.
Bon, bah le pauvre des moulins, t'en serais pas reconnaissant.
Alors ça, on fait pas d'omelette sans casser des œufs, dira-t-on. Certes, mais c'est vrai que moi, je suis pas un grand fanatique de la Révolution française. En revanche, la manière dont ça s'est passé. Par exemple, la Turquie, c'est un cas qui est typique. Il y a une mobilisation qui s'est faite contre le gouvernement d'Erdogan, qui est par ailleurs un gouvernement qu'on pourrait taxer limite de fasciste, étant donné son comportement vis-à-vis du Kurdistan. Les gens sont dans la rue, ils demandent des changements en employant le moyen d'expression populaire qu'ils ont, qui est la manifestation, la mobilisation. Ils sont réprimés immédiatement. Ils sont réprimés avec une violence qui n'est pas coutumière pour nous, Français, parce que la Turquie, c'est un pays qui a une importance géostratégique extrêmement importante vis-à-vis que ce soit des liens entre la Russie et les USA. Donc aucun de ces deux pays-là ne voudrait de façon laisser une démocratie s'installer réellement là-bas, pour la simple raison que c'est le contrôle du Bosphore, c'est le contrôle des détroits, c'est un contrôle de l'économie mondiale. Et je veux dire, vis-à-vis des intérêts des capitalistes et des impérialistes à l'échelle du monde, personne ne voudrait d'un changement politique en Turquie. En tout cas, aucun des grands blocs.
Enfin, je ne pense pas que ce soit ni les États-Unis ni la Russie qui décident de ce qui se passe actuellement en Turquie. Moi, je voulais soulever un problème qui, certes, n'est pas dans le cadre de la révolution, même si ça intègre la démocratie directe. Tout à l'heure, tu parlais du traité de Lisbonne, qui a été certes ratifié par le Parlement, vis-à-vis même si le référendum n'était pas d'accord. Enfin, le résultat avait été non. Mais si on prend l'entrée, par exemple, de la Turquie dans l'Union européenne, actuellement, on voit le problème d'un pays qui est, on a beau dire ce qu'on veut, qui a quand même souvent des manifestations qui sont réprimées et qui sont trop réprimées. Mais enfin, dire il faut un pays démocratique comme la Turquie dans l'Union européenne, avec les frontières qu'elle a, et lorsque l'on sait qu'accessoirement, dans la Constitution, c'est l'armée qui garantit la laïcité, ça fait un peu peur. Bah oui, c'est ça la Turquie. Hein. Non, mais quand on me dit la Turquie, ça s'est modernisé, ils sont la démocratie, c'est l'armée qui est responsable. Comme avant, c'était au Mexique, mais maintenant le Mexique est complètement laïque. Mais enfin là-bas, c'est quand même l'armée qui garantit la laïcité. Bah, désolé, mais un pays, c'est pas vraiment la démocratie. Donc quand on me dit l'Union européenne, alors je sais ce que vous allez me dire. Ça fait 30 ans qu'ils le demandent et qu'on leur promet, mais c'est vrai qu'un jour, il faut peut-être dire non.
Alors sur la question de la séparation de l'armée, depuis 2000, il y a eu une loi de la séparation avec l'armée. Donc ce que tu dis est en partie faux.
Oui, en partie, mais en partie vrai. Et on regardera suivant le verre si la moitié plein, moitié vide.
C'est évident, je vois tout de suite la question là où elle prête le flanc. Mais en fait, moi j'avoue que je ne souhaite pas pour la Turquie qu'elle rentre dans l'Union européenne, parce que de toute façon, je ne suis pas partisan de l'Union européenne de manière générale. Et qui plus est, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment la solution qui permette à la Turquie de développer un régime démocratique. Et de plus, en Europe, nous avons le cas notamment de la Hongrie qui utilise des milices fascistes. Nous avons le cas de la Pologne où, par exemple, l'avortement est puni par la loi. Nous avons le cas de tout un tas de petits pays réactionnaires. Et j'avoue que la Turquie n'en est qu'un parmi d'autres.
Ce qui n'était pas le cas lorsqu'ils sont rentrés dans l'Union européenne.
Oui, mais il y avait la Grèce. Il y avait le Portugal et la Grèce. Et le Portugal, jusqu'à preuve du contraire, c'est quand même l'armée qui, au final, s'est retrouvée à réinstaurer la démocratie face à Salazar.
On passe à autre chose parce qu'après il va falloir conclure. Le PS, là on vous a pas entendu depuis 5 bonnes minutes. Une révolution peut-elle être caractérisée d'illégale? Là, on voit en Turquie, il y a répression sur un groupe de manifestants, puisque finalement, le gouvernement Erdogan a jugé un soulèvement illégal contre un gouvernement démocratiquement élu. En France, on sait qu'il y a aussi un esprit quand même contestataire à être dans la rue. Une révolution... peut-elle être, même vous qui finalement dites il faut, ces valeurs humanistes sans l'usage de la violence, excusez-moi là je me suis un peu perdue, peut-on caractériser une révolution d'illégale dans le cas de la Turquie toujours?
En l'occurrence en Turquie, moi j'ai pas vu de révolution, j'ai vu des gens qui manifestaient pacifiquement leurs idées, alors on peut être d'accord ou pas d'accord, mais je crois pas que c'est comparable avec la France, puisque en France, même avec les idées les plus abjectes, elles ont toujours le droit de se promener dans la rue, à partir du moment où, simplement, pas forcément exactement où elles veulent, mais par contre, elles ont toujours le droit de s'exprimer. C'est ça, la démocratie française. Et donc,
alors, en Turquie, les manifestants qui prenaient l'exemple de la Révolution française et qui disaient « on veut faire la même chose ».
D'accord.
Qui revendiquaient cette
alors,
révolution.
Alors moi, je me méfie tout. C'est comme on parle de mai 68 en Turquie, en ce moment, tout ça, on parle de plein de trucs, mais en l'occurrence, les comparaisons historiques, elles s'arrêtent régulièrement en termes de validité à celui qui le prononce, quoi. Parce que la situation n'est pas du tout comparable là-bas et les moyens qu'ils ont employés non plus. Donc, parler de la révolution française en Turquie, à mon avis, c'était pas le bon truc.
Par contre, parler des valeurs. Eux-mêmes en Turquie parlent.
Je ne suis pas obligé de partager leur point de vue. Par contre, parler de vouloir faire avancer des valeurs humanistes quand on voit le recul du progrès dans ce pays depuis quelques années sur un certain nombre de, notamment je pense aux droits des femmes, à beaucoup de choses comme ça, on peut être d'accord avec leurs revendications. Après, pour moi, c'est le propre d'un système qui prouve la limite de sa démocratie à partir du moment où il considère qu'une manifestation pacifique est illégal et répréhensible par la force. Donc pour moi, il n'y a pas de révolution. Le seul truc qu'il doit y avoir, au contraire, et je trouve que la non-violence montrée par les manifestants là-bas, elle finit par fonctionner, puisque même un régime comme celui d'Erdogan finit par demander quoi ? L'usage d'un outil démocratique, en tout cas, que nous considérons comme démocratique, c'est-à-dire le passage au vote. À mon sens, c'est plutôt une bonne chose. Et après, eh bien, on verra ce qu'il en ressort. Mais pour moi, ça, c'est bien la preuve qu'une manifestation pacifique et le fait de se battre pour ses idées sans forcément faire usage de la violence, bah, ça peut amener à un débouché. Le débouché, il finit par arriver, c'est celui d'un vote. C'est plutôt un bon modèle.
Alors, finalement, là, on a quand même du côté pour l'UMP une révolution conservatrice. Une réaffirmation de certaines valeurs.
C'était bon dans les années 80 et 90. Actuellement, on est sur un mode de valeur. En dehors, le socle idéologique de la droite n'a pas fondamentalement changé. Alors certes, la gauche nous a complètement asphyxiés avec le débat de la manif pour tous, dont beaucoup se sont un petit peu trop rentrés un peu trop dedans et ça a duré un petit peu trop longtemps, certes. Ça, je suis d'accord. Je condamne aussi s'il y a lors des mariages homosexuels des violences qui peuvent être faites, notamment de la manif pour tous. Oui, enfin, vous avez personne, donc c'est facile de toujours critiquer les autres. Hein. C'est comme le Front National qu'on entend, et c'est ça que je vous dis toujours. Vous êtes comme le Front.
Un héritage politique, il n'y a pas de souci.
Ah, ben il n'y en a pas. Donc, naturellement, un héritage pareil, oui. S'il y a un passif, c'est 50 millions de morts en URSS, on connaît. Hein.
Alors, on voit que
La révolution conservatrice, je l'avais pris tout à l'heure parce que quand on parlait de révolution, je disais, bon, la droite en a fait une dans ces 30 dernières années qui était donc sous l'ère Reagan-Thatcher qui avait été quand même pas mal déployée et qui a terminé aussi avec des sociodémocrates comme Gerhard Schröder et Angela Merkel qui l'a suivi ensuite. Pour la CDU. Mais les valeurs... alors moi, j'aime pas le terme que Nicolas utilise et que même à l'UMP, certains utilisent un petit peu trop à mon goût, c'est le valeur humaniste, parce qu'on peut mettre tout ce qu'on veut derrière. Hein. On a certains candidats dans chaque parti qui se déclarent humanistes et lorsque l'on voit les propos qu'ils peuvent tenir, on est à 100 lieues à la ronde. Mais on est toujours dans la volonté, entre guillemets, du respect des institutions. Et c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à une révolution. Quand on dit tout le patronat, qui est quand même plutôt classé à droite détient les moyens de production et gouverne ce pays. S'ils voulaient mettre le gouvernement par terre, il suffirait, pendant qu'il ne le fait pas, à les entendre, même si je pense que c'est pas vrai, de bloquer, entre guillemets, les paiements de cotisations URSSAF, les impôts, voilà. Et non, il n'y a pas de révolution qui se crée. Ça arrange, non, quand tu vois le nombre de chômeurs et d'entreprises qui ferment, je pense pas que ça arrange grand monde, hein, accessoirement. Quand tu reçois tes feuilles d'imposition ou quand tu es chef d'entreprise.
Du coup, finalement, on peut pas vraiment parler de révolution conservatrice, et c'est ça aussi que tu veux dire?
Oui, parce que nous, actuellement, on n'est pas dans le débat, enfin, c'est pas dans notre typologie idéologique.
J'abonde dans son sens, révolution conservatrice. Le terme est très mal choisi, c'est pas du tout le cas.
Finalement, dire ça, ce serait plutôt c'est vouloir préserver des acquis.
Oui,
c'est
bien sûr. Si on dit, par exemple, en Angleterre, des conservateurs ou à l'UMP, qui est le parti de droite parlementaire avec l'UDI, on peut dire qu'on est plutôt classé, puisqu'on fait partie du PPE au Parlement européen dans le même groupe, on est plutôt classé comme conservateur, donc des gens qui veulent garantir des acquis.
Remettrait en cause les acquis, les acquis que vous protégez.
La gauche actuellement, certes, certains défendent une conception de la famille. Il y a aussi la conception de la valeur travail. Il y a les réformes, naturellement économiques. Moi, je suis très porté sur le domaine économique parce que je pars du principe que si l'économie va, disons que ça permet le développement économique du pays, comme sous les 30 glorieuses, on a pu voir, et qui permet, entre guillemets, d'avoir, pour reprendre tout à l'heure ce que disait Nicolas, d'être heureux, qui permet de vivre un peu mieux. Et quand on a, c'est vrai qu'on n'a pas la peur du lendemain, notamment sur le chômage.
Alors, du coup, on a bien compris à l'UMP, on ne parle pas vraiment d'une révolution conservatrice.
Non, on n'appelle pas la révolution.
Pas d'appel
certains
à
même
la révolution. Critiquer
quand la France allait combattre certaines révolutions, notamment en Tunisie. Et quand on voit actuellement dans l'état où est le pays, certains peuvent se poser la question
de
ce qui devient.
Finalement, une révolution des esprits, une révolution, comment vous voulez la caractériser ? Une révolution des esprits ?
Je pense que, je voudrais juste répondre à Jean-Philippe rapidement. La droite, c'est pas des acquis que vous avez, c'est des traditions. Et c'est pas la même chose. Et nous, à gauche, quand vous parlez de protéger vos acquis, en fait, il se trouve que la gauche fait en sorte que l'égalité avance. Si on parle notamment du mariage pour tous et que vous parlez d'acquis,
que
et c'est pas une conception de la famille,
mois,
c'est,
arrive,
la,
hein.
C'est la conception aussi de ce qu'on veut pour que ça bouge.
Ça fait
et
beaucoup
pour
rire l'organisation Communiste Futur Rouge.
Là, c'est les acquis aujourd'hui, je crois.
De chaque organisation.
Les acquis, la tradition, certes, on défend certaines choses. Alors sur l'égalité.
C'est quand même pas la même chose. C'est pas un synonyme. Acquis n'est pas synonyme de tradition.
Un acquis après.
C'est
un acquis dur, il devient une tradition, c'est ce que nous défendons.
Tradition, voilà. C'est acquis, c'est ça que vous défendez ?
Oui, parce que par exemple, sur le mariage pour tous, moi je fais partie de ceux qui pensent, et je le dis ouvertement, qu'en 2017, si la droite revient aux affaires nationales avec la présidence de la République et l'Assemblée nationale, qu'elle ne démarriera pas les couples homosexuels, qu'elle, sur l'adoption, qu'il n'y aura pas de désadoption pour les enfants. Donc certes, là-dessus,
je défendrai nos acquis.
On défendra vos acquis, oui, sauf qu'on aura lutté sur ce qui a été le plus combattu, et c'est là-dessus où, entre guillemets, la droite a réussi ce qu'elle voulait. C'était surtout sur l'adoption, sur la PMA et la GPA, puisque j'oublie pas que l'amendement a dû être retiré en catastrophe.
Il reste 3 minutes,
les GPA,
juste.
Les amendements étaient prévus à la base, écrits par certains membres du gouvernement.
Jean-Philippe, on laisse le dernier mot à l'Organisation Communiste Futur Rouge.
En fait, moi, j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de discussions.
C'est
vrai que c'est qu'en fait, moi, ce que j'ai regretté, c'est qu'il n'y a pas eu vraiment de réponse sur le fond, c'est-à-dire sur le fait que là, à l'heure actuelle, il y a une crise économique qui montre que justement le système capitaliste, honnêtement, ça ne répond pas.
Donc on a compris la révolution contre le système capitaliste.
Non, il n'y a pas que ça, c'est juste que j'ai trouvé ça regrettable.
Tu veux mettre quoi ?
Parce qu'on parle de fond, mais on attend toujours le vôtre.
De fait, tant qu'il y aura une propriété privée des moyens de production, il y aura toujours une accaparation. Les profits seront toujours accaparés de manière privée. Donc, de fait, il n'y aura jamais de développement économique qui servira à répondre aux besoins de la population.
Et concrètement,
on a quand même entendu parler de l'Organisation Communiste Futur Rouge. Je suis désolée, on va devoir s'arrêter là. Vous en parlez en off, bien sûr. Du coup, merci à vous tous. Alors, pour reprendre, Diane et Jean-Philippe, donc pour l'UMP, Élise et Nicolas pour le PS, Maëva et Josquin pour l'Organisation Communiste Futur Rouge. Merci à vous six, et du coup merci à Xavier, Thomas, à la technique toujours. Excellent été à tous, on se revoit donc l'esprit reposé et la peau bien bronzée, et d'ici là, surtout n'oubliez pas, gardez l'esprit critique. Merci.